Bonjour à tous, effectivement, on retourne à Blois. Un peu pour poursuivre un peu ce qui a déjà été présenté auparavant, l'idée aussi ici est de montrer une synthèse de ce qui a été fait sur Blois depuis 5 ans et puis ce qu'on fait actuellement et ce qu'on souhaite faire également par la suite. Et donc là, je vais vous présenter une synthèse voilà, de ces travaux sur les interactions de biodiversité et société en milieu urbain, donc sur le site atelier de Blois Aglopolis, donc de la zone Atelier Loire. Et donc ces travaux ont été menés par plusieurs personnes. Donc moi, Simon Chollet, qui était là aussi au début, Lolita Voisin, Muriel de Paris, donc qui a déjà intervenu, puis qui est en thèse avec nous, Nicolas Leguet aussi, qui est participant, bien sûr, très actif et qui anime avec moi ce site atelier, et puis également d'autres personnes que je mentionnerai. Alors, je vais revenir sur quelques notions d'enjeux, mais qui ont déjà été évoquées auparavant. Les enjeux auxquels on souhaite répondre, en tout cas dans lesquels on s'inscrit, sont des enjeux liés d'une part à de l'expansion urbaine, donc qui engendre certes une diminution des espaces naturels et agricoles, qui entraîne des problèmes de fragmentation des habitats en ville, mais également on trouve certaines potentialités écologiques en ville, notamment quand on se place dans des contextes agricoles assez intensifs. Donc l'idée étant de creuser un peu cet aspect-là. Et puis deuxième grand groupe d'enjeux, qu'il y a des modes de vie beaucoup plus urbains, hein, Sandrine Glatron l'a bien mentionné également, qui engendrent un déclin de l'expérience directe avec la nature, des problèmes sanitaires avec des problèmes d'anxiété notamment, mais également un désintérêt pour la nature et pour sa conservation. Donc, au final, l'idée, c'est de travailler sur l'aspect aussi relationnel entre les gens et puis la nature. Et l'objectif un peu général de ce qu'on fait sur ce site atelier de Blois est de rechercher des solutions qui vise à faire de la ville un site accueillant pour la biodiversité, mais également à promouvoir des relations qui vont être, autant que faire se peut, respectueuses envers les humains, mais aussi envers les autres vivants qui vivent dans ce même milieu. Alors, Blois, ça a déjà été évoqué, hein, donc ça se situe à Orléans. Blois, c'est une ville qui fait 50 000 habitants, donc qui est plus petite que Strasbourg, qui est traversée par la Loire, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Qui s'est beaucoup étendue dans les années 60-70. On voit les grands ensembles qui se trouvent en haut à gauche de la photo. Et maintenant, c'est une ville qui est plutôt assez stagnante, mais par contre, la couronne périurbaine s'étend de manière assez importante. Alors, au départ, nos travaux en 2015 se sont plutôt focalisés sur la flore spontanée. Alors, on était vraiment des écologues au début et on s'est dit, bah, on a une flore en ville qui n'est pas très, très connue. Et on s'est dit, quelle flore on peut avoir en ville, pourquoi elle est là, quelles sont ses caractéristiques et quels sont également ses rôles écologiques. Et on s'est focalisé principalement sur deux types d'habitats dans lesquels on rencontre cette flore, qui sont les friches. Alors les friches, on peut le définir comme des lieux qui ont été très artificialisés, mais qui, depuis quelques années, ont une certaine spontanéité, donc où se développe une spontanéité de végétation, qui sont peu gérées. Donc, dans ces friches, il y a eu plusieurs relevés qui ont été faits par Marion Brun dans le cadre de sa thèse. Et puis, on s'est intéressé également aux trottoirs, hein, qui sont des éléments, au fait, omniprésents dans toutes nos rues, et sur lesquels peut se développer également une végétation spontanée. Donc, on a fait des relevés de flore là-dessus, et on s'est dit, si on compare cette flore au pool régional d'espèces, à toutes les espèces qu'on trouve dans la région centre, comment on peut comparer ça? Et quand on change d'échelle, quand on passe d'une échelle à une autre, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on est à l'échelle de la région centre, on a en gros 1800 espèces. Et quand on arrive dans le pool urbain de Blois, par rapport aux flores des friches et des trottoirs, on arrive à presque 500 espèces. Donc, on peut se dire, c'est quand même super. En ville, on arrive à presque un quart des espèces qui se trouvent rien que sur les trottoirs et les friches de Blois par rapport au pool de toute la région de Centre-Val de Loire. Pour autant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a aussi plein d'espèces qui vont être en fait filtrées et qui ne vont pas pouvoir rentrer en ville, notamment tout ce qui est espèces oligotrophes et de milieux humides. Et puis après, si on descend encore dans les échelles, on voit qu'on a encore des filtres qui vont agir, des filtres notamment de gestion. Quand on arrive sur le pool des trottoirs, on a encore 300 espèces, hein, rien que sur les trottoirs de Blois, avec des espèces très communes comme le pâturin annuel, la sagine, ou le pissenlit. Pour autant, il y a encore des espèces qui vont être filtrées, qui n'arrivent pas à arriver sur ces trottoirs. C'est notamment toutes les espèces qui ont une stratégie de conservation, c'est-à-dire qui se développent très lentement par rapport aux stratégies pionnières de ces espèces qui s'installent. Et ça, en fait, là, pour le coup, le filtre est plutôt basé sur de la gestion. Également, ce qu'on trouve, c'est l'importance de la disponibilité en sol. Le sol est vraiment quelque chose de très, très important au final pour permettre d'expliquer d'une part l'ancrage des espèces, mais également la disponibilité en eau. Et là, ça se voit sur nos trottoirs. Quand on est sur des trottoirs très bitumés, on a seulement deux espèces typiques qui peuvent s'exprimer, qui sont adaptées à ces anfractuosités, notamment la sagine et le pâturin annuel. Pour autant, dès qu'on a un peu plus de sol, on a des espèces, beaucoup plus d'espèces qui peuvent s'installer. Et là, on commence à tendre vers une pelouse, voire une prairie urbaine. Ce qu'on a pu montrer également à travers une review, c'est l'intérêt de toute cette flore spontanée, de ces habitats spontanés pour toute une gamme en fait de groupes d'animaux, que ce soit des papillons, que ce soit d'autres insectes, mais également des animaux ou également des carabes. Et c'est bien l'intérêt de cette flore, c'est leur diversité de structures végétales en fait, notamment les friches, qui ont des structures végétales très variées, allant des pelouses, des petites fruticées, jusqu'à presque des prébois, permettent à une diversité d'animaux de s'installer, et notamment avec des animaux avec également des caractéristiques très, très diversifiées. Donc, à l'échelle de la ville, cette diversité de structures végétales et cette diversité de compositions également végétales, qui apportent des ressources alimentaires aussi différentes, est très intéressante. Par rapport à cette végétation spontanée, maintenant, là, c'est des études qui sont en cours, là, les analyses sont en cours. On souhaite aller justement s'orienter un peu plus vers les animaux, voir quels animaux également se trouvent en ville ou quel autre groupe peuple la ville. Donc là, on s'intéresse également à quels pollinisateurs arrivent en ville et notamment si on plante dans un aspect de conservation et de restauration, si on sème des végétaux locaux ou des végétaux exotiques, lesquels sont préférés, notamment par différents groupes de pollinisateurs. Également, une étude qui a débuté cette année, là, qui est vraiment menée plus par Nicolas Leguet et par d'autres collègues à Orléans et dans d'autres laboratoires en France, aux microbes des sols. Alors, les sols sont très, très peu connus en ville. Alors, autant la structure des sols commence à être un peu connue, mais alors la diversité microbienne et les fonctions microbiennes, là, sont très peu connues. Et donc, ce qu'on a débuté, c'est l'étude de cela à travers plus de 100 échantillonnages, de 100 carottages de sols effectués dans une diversité de quartiers avec des fonctions et des gestions assez contrastées. Alors, les études là que je vous ai présentées sont plutôt à l'échelle de la parcelle, voire du plot, et on s'est dit, bah, au final, cette échelle qui est assez classique en écologie ne permet pas de comprendre certains fonctionnements sociaux ou certaines fonctions d'aménagement et d'urbanisme, comme commençait à l'évoquer Muriel tout à l'heure. Et là, on travaille petit à petit à changer sur un changement d'échelle pour passer de la placette à l'îlot urbain. Alors, l'îlot urbain, ça peut se définir, alors là c'est plutôt une définition de géographie, c'est un ensemble de parcelles avec une forme, un usage et un âge homogène. Et ça représente vraiment une unité pertinente en termes d'aménagement, c'est vraiment l'unité de construction en termes d'urbanisme. Et ça devient une échelle qui permet de croiser des enjeux d'aménagement et d'urbanisme avec des enjeux écologiques. Et donc là, ça nous permet de nous poser de nouvelles questions. Jusqu'alors, on était plutôt sur quels impacts de la gestion et des sols urbains sur la biodiversité. Et maintenant, on bouge, en tout cas, on élargit nos questionnements également sur quels impacts des formes urbaines et de leur histoire sur la biodiversité pour aussi aller vers répondre à des enjeux d'urbanisation actuels, même des enjeux de politique assez forts. Quels impacts de la densification urbaine et au final, quel type de forme privilégier dans la ville de demain? Est-ce qu'on va, par exemple, plutôt vers du résidentiel collectif ou individuel? Et au final, comment ça va agir sur la biodiversité? Alors Muriel a commencé à vous en parler un peu tout à l'heure. Donc là, il y a eu un travail de fait, notamment avec une stagiaire, pour caractériser les différents îlots urbains dans la ville de Blois et essayer de répertorier. Donc là, on est vraiment à l'échelle de l'îlot, donc il y a une forme pertinente d'un point de vue urbanistique. On n'est plus à l'échelle de la maille ou de la placette. Et donc tous ces îlots ont été caractérisés en termes de fonction, d'âge, de construction, et puis également de forme, notamment si on est dans du résidentiel, est-ce qu'on est sur plein de petites parcelles ou alors plus grosses parcelles. Et dans ces îlots, on se pose actuellement deux grands types de questionnements. Quel type de végétation herbacée on trouve? Et cette végétation herbacée est associée à différents facteurs, l'âge des sols, par exemple, la diversité de gestion, la diversité des formes parcellaires. Et on s'intéresse également depuis cette année à la végétation plantée, et cette fois avec des fonctions ou des paramètres qui vont être beaucoup plus sociaux. En termes de quel est le volume disponible de plantation, quelles sont les préférences esthétiques, quels sont les modes de plantation. Quand on est dans les années 60, on n'a pas du tout les mêmes façons de planter avec les mêmes végétaux que maintenant, les pratiques de gestion et l'usage des plantes. Donc, c'est des questions qui sont en cours. Là, on est en train de faire des analyses et également pour se dire, toute cette végétation, quels sont les intérêts potentiels pour les animaux. Alors, à partir de nos réflexions écologiques, on s'est dit, bah, voilà, on va faire des recommandations en écologie de la conservation, des recommandations assez classiques. Puis on s'est dit, bon, bah, on est quand même en ville, dans un milieu qui est très, très anthropisé, où il y a bien sûr des gens qui vivent en ville et qui ont également des façons d'interagir ou de ne pas interagir d'ailleurs avec cette biodiversité. Et on a élargi nos travaux pour également actuellement comprendre, essayer de comprendre en tout cas les attitudes que les usagers ont à l'égard de la nature en ville. Et là, on développe une différentes méthodes. Alors au début, on était plus quantitatif pour travailler vraiment sur les préférences, qu'est-ce que les gens préfèrent. Et maintenant, on essaye d'élargir aussi nos approches pour aller vers plus des approches qualitatives, pour également aussi interroger les représentations et l'attachement que les gens ont vers les espaces naturels. Alors initialement, je vous disais, on travaillait sur les préférences. Donc ça, c'est une étude qui a été débutée en 2017, où on a essayé d'évaluer quels sont les est-ce qu'au final, quel est le regard des gens vis-à-vis de la végétation spontanée là, qui poussait sur les trottoirs. Et on a commencé par travailler à travers des photomontages. Les photomontages sont assez intéressants pour comparer en fait des scénarios de différents types de végétation en gardant, en standardisant en fait le contexte. Donc là, vous avez des trottoirs totalement gérés sans végétation, deux cas où la gestion est assez modeste, on a un peu de végétation spontanée qui apparaît, et deux autres cas où on a de la végétation qui est présente mais qui est intégrée dans des petits aménagements. Première chose qui était intéressante, c'est-à-dire que les gens préfèrent quand même des trottoirs avec un peu de végétation. Là, vous avez une note qui va de 1 à 10 dans les préférences. Donc, une préférence pour des trottoirs végétalisés à des trottoirs totalement minéraux, et ça remet en question notamment des pratiques ou des idées un peu préconçues dans les collectivités, même chez les élus. Et puis, deuxième résultat, c'est que cette préférence pour la végétation est vraiment, enfin, s'accroît encore plus quand les gens perçoivent visuellement un signe d'aménagement ou de gestion. Qu'on appelle des cues to care. Donc, ça, c'est Joan Nassauer qui a développé un peu cette notion. Et là, pour le coup, la végétation qui est là, en fait, qui est la même, un peu, on pourrait avoir la même ici qu'ici. Pour autant, là, on voit une ligne un peu plus droite, qui est le signe de cet aménagement qui permet d'intégrer cette végétation. On a voulu aller un petit peu plus loin que juste les préférences et interroger au final les représentations et l'attachement des usagers envers les espaces naturels. Et là, c'est ce qu'on a fait au bord de Loire. Les bords de Loire sont des paysages qui évoluent beaucoup. Et donc là, on a interrogé à travers ces notions d'attachement, d'une part, les émotions des usagers. Le sensible, je pense, est un point très, très important. Ça a été souligné précédemment. Les connaissances et puis également les usages qui, au final, les espaces de nature doivent être utilisés. Ce qui ressort à travers 200 entretiens un peu plus qualitatifs, c'est la notion de calme, de reposant, d'apaisant. Quand on est en bord de Loire, vous voyez les bords de Loire, ça reste assez extensif en termes de gestion. Et ça rejoint des théories de restauration psychologique. En fait, les gens éprouvent un certain sentiment de fascination douce dans ces éléments, en percevant la diversité de couleurs et de formes, notamment qui rejoint des formes plutôt fractales quand on perçoit ces milieux. Ces éléments et ces émotions sont liées à des perceptions plutôt de milieux assez naturels. Et ce qui est aussi, ces milieux sont vraiment un moyen pour les gens de se dissocier aussi des espaces plus urbains. Ces espaces sont vraiment aussi, ce qui est intéressant au bord de Loire, utilisés de manière très très diverse entre la marche, le vélo, les positions assises ou même encore d'autres usages. Et là, ça va être notamment lié l'accessibilité, le besoin d'accéder et d'entrer dans ces milieux et d'avoir une sorte de diversité d'aménagement pour promouvoir une diversité d'usage. On a, comme pour les trottoirs, évalué la préférence des habitants pour la végétation sur ces bords de Loire. Et ce qui ressort, un peu comme pour les trottoirs, ça conforte un peu ça, c'est une préférence des habitants pour une végétation qui est déjà assez développée. Ce que vous pouvez voir, donc les photomontages qui se trouvent sur les deux colonnes de droite par rapport à une végétation rase, alors que c'est la gestion actuelle qui est pratiquée actuellement. Je vais en conclure pour rester à peu près dans les temps. Ce qu'on peut dire de nos premiers travaux, c'est que la ville peut être un milieu accueillant pour certaines espèces. Pour autant, elle va en filtrer d'autres. Et notamment, il y a un intérêt à réfléchir sur les conditions environnementales en ville et puis également sur les pratiques de gestion. Je pense qu'on a une nécessité théorique, mais également appliquée, de trouver des échelles pour travailler à l'interface entre de l'écologie, mais également des entrées d'urbanisme, d'aménagement et de géographie. Donc, ça implique de se décaler aussi dans nos approches écologiques classiques. Et puis, d'un point de vue plus social, on remarque un attachement affectif, mais également comportemental des usagers pour les espaces de nature en ville et une préférence quand même pour de la végétation spontanée, ce qui n'était pas totalement prévu au départ. C'est un peu contre-intuitif. Et donc, ce qui montre des opportunités, au final, c'est assez réjouissant, des opportunités pour concilier enjeux écologiques et sociaux. Et donc, dans nos futurs travaux, on va travailler également plus avec les gestionnaires et les élus pour voir comment on peut aussi faire évoluer des politiques et des pratiques d'aménagement et de gestion. Voilà, merci à tous pour votre écoute.